Bonjour, nous accompagnons dans la rue Patrick Vasseur, sociologue, maître de conférences HDR à l'Université de Caen, directeur de publication de la revue Illusio, auteur de « Contre le capitalisme », et c'est paru aux éditions Le Bord de l'eau. Superfluité, ça vous évoque quoi? C'est le sous-titre.
Superfluité. Banalité du mal, superfluité et masse. Ça me dit rien. Non mais ça... Attendez, contre le capitalisme, ça d'accord, je comprends. Banalité du mal. Donc c'est le mal qui est le capitalisme. Et on le banalise. Superfluité. Superfluité. Et masse.
Anne, vous avez envie d'être éclairée sur ce concept?
Oui, je veux bien, oui, ça m'intéresse.
Le capitalisme, pour pouvoir survivre, va tenter de multiplier nos pratiques, à commencer par les pratiques de production et les pratiques de consommation. Et donc, le capitalisme ne peut survivre que s'il n'a tout massifié. Parce qu'on va produire de plus en plus, on va produire massivement, on va consommer massivement. Et les individus eux-mêmes rentrent dans une masse de consommateurs. Et en fait, il faut tellement accélérer les pratiques de consommation que tout devient superflu. Et la superfluité, c'est le fait de rendre la vie elle-même superflue. C'est-à-dire tout ce que l'on consomme aujourd'hui et que l'on trouve dans les magasins, ça a déjà été réfléchi comme étant des objets obsolètes. Ils ne sont pas exposés que déjà, on les a prévus pour qu'ils soient recyclés, jetés, brûlés, peu importe. Et c'est donc cela. C'est-à-dire que le capitalisme a pour projet de rendre tout superflu parce que c'est la seule solution pour lui pour pouvoir se reproduire.
Se reproduire.
Voilà.
Qu'est-ce qui va se reproduire ?
Le capital. Le capital se reproduit à partir du moment où vous êtes censé consommer. Si vous ne consommez pas, le capital ne se reproduit pas.
Mais on ne peut pas consommer sans superfluité ?
On pourrait le faire, mais à condition que l'on soit dans une société qui n'ait plus le désir d'accroître le capital. Et dans ce cas, on peut rentrer dans une société raisonnable, raisonnée, Mais c'est une révolution que vous proposez.
Oui, moi je suis pour la révolution. Enfin, ça dépend ce que c'est que le capital. Je ne fais pas forcément de lien entre capital et capitalisme.
Ah si,
enfin,
si,
j'en
si.
J'en fais un, mais expliquez-moi.
Le capitalisme, c'est le système politique qui tend à valoriser le capital perpétuellement contre le travail.
Contre le travail, ah oui, le capital dans ce sens-là, d'accord.
Est-ce qu'un bijou, c'est superflu?
Pas forcément, non.
Non, un bijou n'est pas superflu, pas forcément, je suis d'accord.
C'était une question.
Oui, mais je suis d'accord avec la réponse. C'est-à-dire qu'un bijou, c'est pas forcément superflu, mais c'est pas l'objet qui est superflu. C'est l'abondance d'objets qui devient superflu. Parce que la nourriture en soi est absolument essentielle, mais la surabondance de nourriture devient superflu. Et en tant que telle, elle devient dangereuse.
Superflu, et ça peut être indécent.
Ah oui, c'est tout à fait, c'est superflu et indécent.
Vous participez à des vides-greniers ?
Non.
Et vous avez
non,
envie
parce que moi-même, je fais le vide chez moi.
Ah oui ?
Oui.
Donc vous avez déjà accumulé ?
Pas tellement, mais j'accumule pas, en fait. J'ai pas grand-chose chez moi. J'ai des choses... Enfin, chaque objet a une histoire pour moi. J'ai pas de choses superflues, mais dans mon histoire, pour moi. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça le serait.
Et qu'est-ce qui fait que vous n'accumuliez pas ?
J'aime pas l'abondance. Ça m'oppresse. Quand il y en a trop, ça m'oppresse. Et puis parce que j'aime bien la rareté des choses.
Parce que la rareté a du sens.
Oui.
Ça tient à votre éducation ?
Non. Non. Enfin, certainement. Il y a quand même beaucoup de choses qui tiennent à notre éducation. Mais pas seulement.
Donc on peut s'en échapper, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on nous matraque de publicité, on nous incite à consommer.
On peut y échapper partiellement, individuellement. La difficulté pour changer la société, c'est de pouvoir y échapper collectivement avec une même finalité, c'est-à-dire une finalité partagée par l'ensemble des individus. Et c'est ça la grande difficulté, et c'est ça la forme, la forme de puissance que possède le capitalisme, dans le sens où, au fond, en proposant une abondance, une certaine abondance et en même temps une certaine facilité de vie, c'est difficile de se dire j'en ai trop, je reviens à ce qui a du sens. Parce que ce trop, finalement, on a toujours l'impression que ça nous facilite la vie. Et c'est ce que nous vend le capitalisme. Effectivement, la vie est plus facile aujourd'hui, en 2017, pour les Français moyens, que pour les Français moyens en 1950, au moment où on sort de la guerre. Mais ce n'est pas pour ça que notre vie a plus de sens. Loin s'en faut. Et donc, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que vous étiez attaché à des objets qui avaient du sens dans votre histoire, et c'est ce que l'on doit tous chercher, quel est le sens de notre histoire. Mais on doit le chercher collectivement maintenant, pas simplement individuellement. Et c'est là la difficulté la plus grande.
Illustrer cette idée du sens d'un objet, parce que ça peut être très très vague ou ça peut être très précis.
Il faut que je vous donne un exemple d'un objet.
Qui a du sens pour vous et quel sens il a.
Par exemple, dans ma maison, j'ai peu d'éléments décoratifs, mais ceux qui sont présents, ils ont un sens par rapport au lieu dans lequel je suis allée ou par rapport à ce que j'y ai fait. Ou... Voilà, j'ai pas un abat-jour parce qu'il faut un abat-jour, c'est parce que je l'ai trouvé à ce moment-là. Mais c'est parce que déjà, j'ai des choses aussi que je peux me permettre de faire comme ça. Voilà.
Comme des objets qui marquent votre existence.
Oui.
Est-ce que vous avez fait une brocante et que le brocanteur ou la brocanteuse était sympa, non ?
Je fais pas de brocante. Je fais pas de brocante.
Que du neuf.
J'ai du mal avec certains... Enfin, pas forcément que du neuf, non. Mais les vide-greniers aussi, des fois, l'état d'esprit, il m'agace. Et puis j'aime pas trop farfouiller, moi. C'est comme ça, c'est au gré, je vais voir quelque chose qui me plaît. Voilà, ça tient plus à ça. Parce qu'aussi, j'ai pas de besoin particulier, parce que j'ai globalement quand même.
J'écoutais sur les vide-greniers. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose comme ça, contrairement à vous, dans les vide-greniers, les gens se défont du superflu, mais ils ne se défont pas que du superflu. Ils se défont aussi de leur histoire, souvent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a partout, dans toutes les régions françaises, des villages qui font, pourquoi pas, des fêtes des moissons, fêtes des vendanges, toutes les fêtes, etc. En fait, la vraie vie tend à disparaître. La vraie vie tend à disparaître. Soit elle est complètement marchandisée, voilà, ou alors elle est muséifiée. C'est-à-dire qu'on met la fête des vendanges ou la fête des moissons, c'est une sorte de musée, pour essayer de se rappeler qu'à un moment donné, la vie était comme ça. Et on essaye de se dire, ah, qu'est-ce que c'était bien à cette époque-là. Alors qu'en fait, on vit les choses totalement différemment aujourd'hui. Pour beaucoup, on ne se pose même pas la question de savoir si ce serait vraiment bien de retourner à ce moment-là, à cette époque-là. Mais on a comme ça des villages-musées, des fêtes-musées un petit peu. Et on essaye de croire qu'il s'agit de culture. Et dans le même temps, on se défait de ce qui fait réellement notre histoire, dans des vide-greniers ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Voilà. Ce petit ouvrage-là est paru, je crois, peu de temps après un ouvrage que j'avais fait suite à ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo. Au fond, il y a un philosophe allemand qui dit qu'il écrit ça en 66, « La barbarie d'Auschwitz n'est pas terminée ». La barbarie n'est pas terminée parce qu'on n'a pas réfléchi à ce qui avait provoqué réellement la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et je suis assez d'accord avec lui. Ça signifie qu'aujourd'hui encore, c'est ce que nous disions tout à l'heure, on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas demain une catastrophe, une autre catastrophe, une autre période crépusculaire. Et je trouvais que contre le capitalisme, au fond, c'était commencer à répondre un tant soit peu, alors ça c'est un tout petit essai, mais ça commençait à répondre un tant soit peu à ce que nous n'avions pas réellement analysé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes ont envie d'en abattre d'autres, d'en éliminer d'autres, de se montrer meilleurs sur une échelle qui ne nous appartient pas, échelle de valeur qui ne nous appartient pas. Ça peut être l'achat d'une Rolex, comme un certain président de la République, enfin un conseiller de président de la République. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de produire des échelles de valeur ? Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a, autour du capitalisme, une philosophie, une idéologie qui impose à tous la nécessité de rentrer dans une compétition globale. Et donc d'éliminer les autres si on ne veut pas être éliminé soi-même. Voilà.
Pour vous, qu'est-ce que pourrait être le pendant du contre le capitalisme ?
Bah pour, je vais dire, une banalité énorme. Je ne sais pas, pour vivre ensemble, mais comment ? Je ne sais pas.
C'est tout sauf banal, vivre ensemble.
Si, c'est une banalité, parce qu'actuellement, on essaie. Enfin, je l'entends pas mal. Après.
Un instant comme celui-ci, est-ce que vous trouvez ça banal ?
Non.
Et bien pourtant, on a vécu un moment ensemble, là. Donc ça n'a rien de banal.
Non, c'est pas banal de vivre ensemble, mais de dire que le vivre ensemble, on en entend beaucoup parler. Mmh. Mais le fait de le vivre, on le vit peu. Mmh. Mais ça, c'est assez banal, ce que je dis.
Qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter alors que beaucoup de gens n'avaient pas le temps ? Est-ce que vous aviez du temps ?
J'ai un peu de temps, d'une part, mais c'est pas la première. Enfin, je sais pas dans quel ordre les raisons. Et puis parce que ça m'intéresse contre le capitalisme.
C'est clivant en fait. Soit ça fait fuir, soit ça.
Ouais, ouais.
Ça rapproche.
Bah, oui, bah c'est pas illogique. C'est pas illogique.
Non, mais Bah oui. Évidemment, les choses sont pas mal comme ça. Hein. Soit ça fait fuir, soit ça rapproche, c'est sûr.
Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure d'interview en marchant dans la rue à la rencontre du public ?
Eh bien, je retiens, mais je le savais déjà, qu'on peut rencontrer des gens assez facilement, que l'on peut parler. Et donc, en même temps, il y a une sorte de leçon, à savoir, merci, il y a une sorte de leçon, à savoir que... ou de question. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à s'arrêter ? Même quand ils s'arrêtent à une terrasse de café, ils ne parlent pas ensemble. C'est la question la plus mystérieuse, au fond, parce qu'on est là, on parlait de masse disséminée, ben voilà, on est tous ensemble, là, on est dans cette rue, tous ensemble, et en même temps, totalement étrangers les uns aux autres. Et si quelqu'un adresse la parole à une autre personne, l'autre personne en sera presque surprise. C'est ça, au fond, la leçon de tout ça. Et c'est contre ça qu'on doit lutter. C'est-à-dire, je crois, essayer de reconstruire des interrelations peut-être un peu plus simples, avec un peu moins de freins, avec un peu moins de doutes, et puis avec un peu plus de confiance. Voilà, on a l'impression que les gens ont peur les uns des autres. C'est ce que le sociologue Albert Memmi avait appelé l'hétérophobie, la peur de l'autre, voilà, l'hétérophobie. D'ailleurs, il est assez chagriné parce qu'il s'aperçoit que son terme d'hétérophobie a été changé, modifié, et qu'on l'utilise maintenant pour l'islamophobie, etc. Alors c'est toujours la peur de, souvent, hein, qui s'exprime, mais avec une haine derrière qui n'existait pas dans son terme d'hétérophobie. Donc voilà, c'est ça, c'est l'hétérophobie qu'on a ici. Lorsque les gens se croisent et qui n'osent pas se parler, pas se regarder. Quand un regard est un peu prolongé, on se demande toujours « mais qu'est-ce qu'il me veut ?» Bah, il ne me veut rien, il me regarde simplement parce que la personne est souriante, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle peut nous surprendre, parce que voilà, peu importe. Et on peut se parler, se dire bonjour, on n'est pas au fond des étrangers les uns aux autres. On se ressemble tellement.
Ce qu'on ne mesure pas, c'est que les gens que nous avons croisés peuvent être aussi pressés, c'est pas simplement parce qu'ils ont peur.
Oui, mais ils sont pressés, mais si, parce qu'ils ont peur. Alors, ils n'ont pas peur de l'autre.
Ils ont peut-être un train à prendre.
Oui. Mais ils ont peur de rater leur train, ils ont peur de rater la sortie de la crèche, ils ont peur que leur mari ou leur femme les engueule, etc. Ils ont peur de ne pas être à l'heure pour le rendez-vous ou le repas du vendredi soir. Enfin, ils ont toujours peur. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'horloge peut aussi générer cette crainte, cette peur. Il n'y a pas de lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Au fond, l'ennui est interdit et la relation est interdite. Si on élimine l'ennui et que l'on permet la relation, la vie serait bien différente.
Abolissons les horloges.
Ah oui, l'abolition des horloges, ce serait très bien. L'abolition du temps rationnel. Ce serait une très belle épreuve.
Merci Patrick.
Merci à toi.
C'était super.
Bah, c'était très bien.
Merci à Patrick Vassor, auteur de Contre le capitalisme, essai paru aux éditions Le Bord de l'eau, et merci à
Anne
pour leur libre participation à ce reportage.